France Culture.
Question d'islam par Al Bensheikh. Aujourd'hui, nous parlons du califat. Qu'est-ce le califat? La charge d'un calife, l'utopie du califat dans les mouvements islamistes contemporains, tous les réseaux dits fréristes de nos jours ont-ils quelque chose à voir avec cette idée du califat ou pas? Et j'ai plaisir pour aborder ce sujet dont nous entendons tous parler, de recevoir Hawa Seniger. Hawa Seniger, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, je suis ravi de vous avoir au téléphone via l'application Reportit, puisque vous n'êtes pas présent physiquement dans le studio ici à Radio France. Et vous êtes à Lyon parce que vous êtes d'abord un politiste reconnu, maître de conférences, habilité à diriger des recherches en sciences politiques, et vous enseignez à l'Institut des sciences politiques de Lyon. Vous êtes chercheur au laboratoire Triangle, qui a un lien avec l'École normale supérieure de Lyon et le CNRS, et vous êtes un fin connaisseur de l'islamisme en contexte islamique, c'est-à-dire avec des sociétés majoritairement musulmanes, tout comme vous avez des connaissances des réseaux islamistes, ces débats sur l'espace public, la recomposition du champ islamique, notamment en France. C'est dire que nous avons affaire avec vous à un homme avisé et à un observateur de la chose islamiste. Avant tout, et avant de parler du califat, je vous ai entendu, comme je vous ai lu, parler de l'islamisme comme un intégralisme. Or, dans ma mémoire, on avait qualifié à un moment donné quelques partis catholiques, et notamment en Espagne, au tournant du siècle dernier, comme étant aussi des partis intégralistes. Y a-t-il une comparaison ou pas? Enfin, en Espagne, c'était du temps du catholicisme. On parlait d'un parti intégraliste, intransigeant et intégral même. Qu'est-ce que vous entendez par islamisme et intégralisme?
Je rappellerai plus précisément les trois chercheurs qui ont mobilisé ce concept ou cette notion d'intégralisme. Il s'agit d'Émile Poula, historien et sociologue, de Jean-Marie Mayer et de Jean-Marie Donegani, hein, qui utilisent chacun ce concept, qui s'appuie principalement sur un autre terme qui est beaucoup plus péjoratif, qui est celui d'intégrisme. L'intégrisme est une catégorie qui a été mobilisée autrefois par les catholiques libéraux, plutôt ouverts sur la modernité, pour qualifier les chrétiens et les catholiques notamment, hostile à cette modernité et qui s'inscrivait davantage dans une vision traditionnaliste. Alors, que signifie le terme intégralisme? Pour faire très simple, très schématique, sans perdre de vue la nécessaire rigueur, il s'agit de l'idée que la religion a quelque chose à dire en privé et en public. Et surtout que la religion a une vocation de régulation sociale ou de régulateur social. En d'autres termes, l'État s'appuie sur les ressources symboliques de la religion pour christianiser, pour judaïser, pour islamiser. Et c'est de ce point de vue-là que je suis parti pour désexceptionnaliser le rapport à l'islam. Il n'est pas question de faire de l'islam ou de l'islamisme une exception. C'est un objet de savoir, c'est un objet de connaissance, c'est aussi un objet de culte, de révérence pour les croyants. Mais nous ne devons pas perdre de vue une nécessaire et rigoureuse définition. En d'autres termes, le vocable, la notion, concept d'intégralisme au sujet de l'islam me permet de rappeler que pour les tenants de cet islam intégral, qu'on appelle communément les islamistes, mais on pourra préciser le propos, l'islam n'est pas qu'une affaire privée, c'est une affaire publique. Et l'État, notamment dans les sociétés majoritairement musulmanes, doit pouvoir s'appuyer sur ses ressources symboliques pour ramener à une croyance intégrale, ou une croyance plus ostensible, plus ostentatoire, les musulmans qui peuvent être musulmans différemment. Et l'islamisme est donc un intégralisme qui ressemble peu ou prou à d'autres formes d'intégralisme religieux. Et vous voyez que ça nous amènerait plus loin en termes de développement. L'intégralisme ne dit rien des modes d'action des acteurs qui s'inscrivent dans ce courant intégraliste, islamique ou musulman ou islamiste. Ces modes d'action peuvent être pacifiques, mais ils peuvent être violents. Et cela dépend des contextes et des acteurs.
Oui, vous êtes aussi un observateur et vous étudiez cette violence sacralisée, le combat sacré. Alors, quels sont les liens, dans le cadre islamique, cette fois-ci, entre religion et politique à travers l'histoire ? C'était avec vous et d'autres chercheurs où il y avait cette idée que bien qu'il n'y eût pas véritablement une science politique, je parle de l'étendue temporelle, la fresque historique ou la tapisserie des siècles, il y avait quand même une tradition du miroir des princes où on ne préconisait pas pour le calife ou le prince ou le sultan ou l'émir ou le commandeur des croyants de gouverner selon le désir politique de Dieu. Il y avait cette tradition. Et si on devait ramener ça uniquement au Léviathan de Hobbes, on trouve une théologie politique assez condensée dans le Léviathan de Hobbes qu'on ne trouve pas dispersée sur quasiment 14 siècles de civilisation islamique.
L'islam, la religion, a constitué depuis 632 un réservoir de sens, un réservoir symbolique. Et les acteurs, les souverains, se sont appuyés sur ce réservoir de sens. Mais est-ce à dire que la religion telle qu'elle a été mobilisée embrassait l'ensemble des commandements, des mesures, des décisions des souverains? Je crois qu'on peut répondre non. Le politique a très tôt eu une relative autonomie, mais il s'agissait, sous les Omeyyades, entre 661 et 750, ou sous les Abbassides, entre 750 et 1258, de conserver ce lien avec le religieux, hein, s'agissant des califes, pour légitimer un ordre politique. Il y a eu, malgré tout, des résistances. On n'en a pas le temps ici pour en faire une revue complète. Parfois, certaines figures théologiques à l'époque médiévale, je pense aux quatre principales figures, Abu Hanifa, Ibn Hanbal, Malik Ibn Ouanès ou Shafi'i, pouvaient avoir des réticences par rapport au souverain. Ils n'acceptaient pas forcément de la part du souverain l'instrumentalisation du religieux. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous, je crois que c'est ce que vous suggérez par votre interrogation, que la distinction a existé. J'en viens plus exactement à mon domaine de spécialisation. Je crois que fondamentalement, il y a une rupture qui va s'opérer à l'époque moderne, ou même à l'époque contemporaine, durant la première moitié du XXe siècle, où il va y avoir ce que j'appelle un nouvel âge des rapports entre politique et religion. Autrement dit, si ces rapports existaient avant, à l'époque califale, à l'époque moderne, ces rapports vont connaître une transformation avec l'idée, du point de vue de certains acteurs, que la religion constitue un système. On a une religion qui devient tout à la fois une application des normes, ou une volonté d'application et d'inculcation des normes religieuses, mais en même temps un système politique qui fera en sorte de ramener les acteurs individuels et collectifs à une pratique plus assidue, plus rigoriste, plus rigoureuse de la religion musulmane.
Alors, mon cher Hawass Seniger, avant d'avancer avec vous et de parler du califat, peut-être encore dans ce long préambule, et pour nos amis auditeurs, comment appréhendez-vous, si je puis dire dans tous les sens du terme, l'islamisme au carrefour de la philosophie, des sciences politiques, de l'islamologie savante pour déconstruire le concept, parce qu'on ne sait plus ce qu'il y a derrière le vocable.
D'abord, je crois, en tant que politiste, qu'il est toujours très important de prendre au sérieux les références classiques mobilisées par nos contemporains. J'entends par contemporains les acteurs dits islamistes, ou qui s'inscrivent dans ce courant de pensée. Les textes classiques, ce sont des textes du canon médiéval, plutôt des auteurs de l'époque médiévale qui sont convoqués, interprétés, réinterprétés par ces acteurs. Et en ce sens, l'islamologie, ou l'islamologie appliquée, pour reprendre ce concept que l'on doit à Mohamed Harkoun, consiste à prendre au sérieux ces textes classiques et à voir, analyser en détail la manière dont ses contemporains islamistes les utilisent. Donc pour moi, il est important de lier les deux disciplines. La philosophie, et je m'inspire dans l'analyse de l'islamisme d'un auteur très suggestif dans ses développements, en l'occurrence Wittgenstein, c'est cette distance qu'on peut avoir avec les mots. Un mot ne dit pas la diversité des pratiques ou des comportements des acteurs que l'on désigne par la notion, le vocable d'islamiste. Quand on dit islamiste, on renvoie dans la réalité à des acteurs qui considèrent que la religion est une affaire privée, une affaire publique, on l'a dit tout à l'heure, que la religion est un moyen de gouvernement des hommes, gouvernement des âmes, mais ça ne nous renseigne pas davantage sur la manière dont procèdent ces acteurs en fonction des contextes dans lesquels ils évoluent. Et la philosophie de Wittgenstein nous permet de nous défier de ce qu'il appelle le substantialisme, ou l'essentialisme, on dirait. Chercher l'uniforme derrière un même mot. Quand on dit islamisme, on a l'impression que c'est un ensemble homogène. Et on s'y perd, en effet, et vous faites très bien de le rappeler dans la question, on s'y perd parce qu'on ne sait plus exactement où s'arrête l'islam et où commence l'islamisme. Au cours du 19e siècle, ou même au début du 20e siècle, des auteurs comme Louis Massignon, au XXe siècle, ou Henri Bergson, le philosophe, dans les deux sources de la morale et de la religion, utilise le terme islamisme comme synonyme de la religion musulmane, de l'islam. Si on remonte...
Même un Roger Caratini, je vous en prie, pardonnez-moi, je vous ai interrompu, mais dans ce sillage, même un Roger Caratini, l'encyclopédiste, dans les années 90 encore, c'est-à-dire bien après l'ouvrage de Bruno Etienne, l'islamisme radical, pour lui, le génie de l'islamisme, pour faire pendant au génie du christianisme de Chateaubriand, pour lui, le génie de l'islamisme, c'est pour la tradition religieuse islamique et la civilisation qu'elle sous-tend.
C'est ça, et même Jean-François Clément, dans la revue Esprit, avait accordé une attention redoublée au terme islamisme, qui signifiait davantage à ce moment-là, ou à partir de ce moment-là, des mouvements politico-religieux, ou des mouvements qui s'inspirent ou qui s'inspiraient de la religion pour gouverner, ou avec des prétentions politiques. Mais ça, c'est la définition la plus simple. À mon avis, elle est simpliste, cette définition, qui consiste à dire l'islamisme, c'est la confusion entre le politique et le religieux. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Puisque vous pouvez être musulman ou croyant, dévot, vous intéresser à la politique, ça ne fait pas de vous pour autant un militant islamiste. D'autant plus que l'islamisme revêt une dimension péjorative. Généralement, on assimile l'islamiste au terroriste. Et d'ailleurs, aujourd'hui, des acteurs qui s'inscrivent, qui ont un héritage islamiste, refusent ce terme parce qu'ils estiment qu'il est confus et qu'il peut prêter à confusion. Des acteurs qui peuvent être légalistes, certes islamistes, mais légalistes, se voient renvoyés au terrorisme. Donc ce terme-là, aujourd'hui, est devenu très péjoratif, alors que scientifiquement, je l'utilise tout simplement parce que les acteurs eux-mêmes l'utilisent en langue arabe. En langue arabe, on parle d'islami ou d'islamioun au pluriel. Et ces acteurs islamistes sont ceux-là même qui distinguent le croyant ordinaire, al-muslim, le musulman, quelqu'un qui pratique sa foi privément, éventuellement publiquement, mais qui ne participe pas d'une action politique. Donc les islamistes assument cette définition en y ajoutant le fait que l'islamie, donc l'islamique on dirait, ou l'islamiste, ou l'islamioun au pluriel, sont ceux qui vont au-delà de la pratique privée, au-delà de la simple considération ritualiste, et qui estiment au contraire que la religion, il ne suffit pas de pratiquer sa religion, encore faut-il s'engager dans une association, dans une organisation, dans un parti politique pour faire vivre publiquement la religion. Et à ce moment-là, on gagne en précision. J'ajouterais pour terminer provisoirement que pour être encore plus efficient dans l'analyse, nous devons ajouter qu'il peut y avoir des islamistes violents qui usent de moyens illégaux, de moyens terroristes pour arriver à leur fin, et des islamistes légalistes. En d'autres termes, des islamistes qui participent du jeu politique officiel, qui usent de moyens pacifiques pour parvenir à leur fin.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui avec Hawass Seniger, le politiste, nous parlons du califat. Et cher Hawass Seniger, maintenant, qu'est-ce le califat en dehors de la charge d'un calife? Mais qu'est-ce un calife?
La première occurrence, on la trouve en 173, soit bien avant l'avènement de l'islam. Je rappelle que l'islam apparaît ou apparaîtrait entre 610 et 611, peut-être 612. En tout cas, on retient souvent la date de 610.
Quoiqu'on ne parlait pas encore de musulmans à ce moment-là, on parlait de croyants.
Absolument. Et le terme, l'occurrence qu'on trouve dans ce magnifique dictionnaire, et j'invite les auditeurs à aller le consulter, le Doha Dictionary, qui est un dictionnaire qui a été réalisé en ligne avec un travail commun entre Doha et le département d'arabe de Lyon 2. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce dictionnaire? Khalifatu Shars, donc le fait, et je lis le terme et puis je traduis, hein, من يبقى بعده ويحل محله, c'est-à-dire celui qui reste après la personne, qui succède à une personne et qui le remplace. Donc ça, c'est la première occurrence, 573. On a ensuite une deuxième occurrence que l'on situe en 619, où intervient à ce moment-là une dimension beaucoup plus religieuse. Et dans cette occurrence, on a à la rubrique Al-Khalifatu, donc le califat, Man ja'alallahu ilayhi amra li hukmi wal-mulk. En d'autres termes, celui à qui Dieu a confié le pouvoir et le règne. Alors, hukm, ça peut vouloir dire aussi le jugement. Ça ne veut pas forcément dire le pouvoir. C'est la deuxième occurrence. Enfin, troisième occurrence, c'est tout à fait intéressant, Al-Khalifatu Rashid, c'est-à-dire le califat bien guidé. Et généralement, ce califat bien guidé fait référence aux quatre premiers califes, je le rappelle, dans l'ordre, Abu Bakr entre 632 et 634, Omar entre 634 et 644, Othman entre 644 et 656, et Ali entre 656 et 661. Je rappelle que Rashidoun, les bien guidés, c'est une qualification sunnite. Les chiites ne parlent pas de calife bien guidé.
Qui est bien postérieur, puisque de leur vivant, ils ne se présentaient pas eux-mêmes comme étant des califes bien guidés ou orthodoxes ou de la rectitude spirituelle. Et ce qualificatif de Rashidoun au pluriel ou de bien guidé n'est venu que bien plus tard.
Tout à fait. C'est-à-dire que le Khalifat al-Rashid, donc le califat bien guidé, est une catégorie qui est ressortie à l'apologie, ou à l'apologétique. C'est une forme d'édification. Comme ils étaient au plus proche du prophète de l'islam Mohammed, ils étaient considérés comme des modèles à suivre. Mais ce que l'on perd de vue, parlons-nous de morale ou de politique? Je ne suis pas sûr que la dimension politique soit véritablement à intégrer
bien
dans l'économie de cette explication.
Bien sûr, puisqu'on avait ajouté un cinquième calife bien guidé qui est Omar ibn Abdelaziz, qui est Omeyyade, et on est aux alentours de 717-720. Oui. Donc,
Et les dates sont importantes, parce qu'il y a un quatrième élément. C'est un quatrième élément qu'on trouve dans le chapitre 2, Al-Baqara, la vache, ou la génisse, hein, chapitre 2, verset 30, où il est dit, lorsque ton Seigneur confie aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, khalifa, etc. Et dans ce verset, il n'est pas question de pouvoir politique. Il s'agit d'une vice-gérance, le vicariat de Dieu sur terre. En d'autres termes, ça signifie la liberté, l'autonomie de l'homme. En d'autres mots, Dieu confie la vice-gérance et à l'homme de se débrouiller ici-bas pour construire son devenir, construire ses interactions, construire son ordre social, mais il n'y a pas d'indication précise quant au modèle politique à adopter.
Oui, il est tout simplement, si j'ose dire, un lieutenant, si ce n'est un tenant-lieu de la seigneurie divine ici-bas, et donc l'homme a cette liberté de co-gérer ou de gérer sa vie dans ce monde-ci.
Exactement. Et ensuite, quand on construit historiquement le raisonnement, on se rend compte que finalement, ce concept ou cette vision politico-religieuse, je ne sais même pas d'ailleurs si on peut l'appeler ainsi, c'est 1924. 1924 est l'abolition du califat par Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République moderne turque. Et c'est, d'autres enjeux apparaissent à ce moment-là.
Oui. Hein.
Il y a la création des frères musulmans qui suit, mais on pourra y revenir plus en détail.
Forcément, et c'est ce qui nous intéresse maintenant à propos de l'utopie du califat. Je voulais simplement vous dire que ce califat n'a aucune valeur sacrale, n'a pas de fondement sur le plan purement politique dans les références scripturaires coraniques. Le prophète de l'islam lui-même n'en parle pas, il n'en a pas parlé de son vivant, même si les chiites disent qu'il y avait une sorte de désignation comme successeur à propos d'Ali. Il n'y a pas, donc, il n'y avait aucune consigne claire et explicite. Le califat a commencé avec un homme en 632, donc Abou Bakr, qu'on francise en Boubaker, et c'est fini en 1924, d'abord par le vote de la Grande Assemblée nationale turque, le 3 mars 1924, et la signature du décret, comme vous le dites si bien, Hawass Seniger, par Mustafa Kemal Atatürk, 3 jours plus tard.
Oui, et donc c'est une reconstruction de l'histoire en réalité, c'est une projection à laquelle on a affaire, et cette projection elle est liée à un contexte particulier. Cette abolition symbolique apparaît comme un coup de tonnerre parmi un certain nombre d'acteurs musulmans, je ne dirais pas les populations musulmanes, je ne suis pas certain qu'on puisse accéder aujourd'hui au désir qui était celle des populations en l'occurrence, mais à des leaders politiques ou à des acteurs politiques qui ont estimé que le symbole de l'unité musulmane était à ce moment-là bafoué et qu'il fallait retrouver de l'ardeur et de la vigueur par rapport à un empire colonial occidental ou de type occidental qui a dominé sans partage un certain nombre de territoires majoritairement musulmans. Et c'est à ce moment-là, justement, à partir de 1928, soit au moment de la création de l'Organisation des Frères Musulmans à Ismaïlia en Égypte, que ce désir de revenir au califat sera beaucoup plus marqué et marquant. L'idée d'unité islamique. Retrouver cette apogée supposée de l'empire majoritairement musulman avant la colonisation. Et donc c'est une reconstruction où on pourrait parler, en termes plus sociologiques, de tradition réinventée.
Oui, Hawass Seniger, le débat qu'il y a eu autour de 1924-1925 était avec deux alternatives ou deux thèses. Il y a ceux qui, même s'ils n'étaient pas nombreux, qui s'étaient réjouis, qui s'étaient félicités, qui avaient même regretté que cette abolition du califat fût aussi tardive. On pouvait dire que c'était les tenants d'une certaine modernité politique et intellectuelle. Et il y avait aussi ce qu'il avait perçu, cette abolition, comme un traumatisme terrible dans un contexte de colonisation et que l'unité de la Oumma était de ce fait fragmentée, fissurée, etc. Et la réaction du jeune Hassan al-Banna était de pallier cette carence et ce manque.
Tout à fait. En fait, il y a deux points importants. Et quand on retrouve les textes de Hassan al-Banna, beaucoup de textes n'ont pas été traduits en langue française, mais j'ai fait une découverte, je trouve, assez intéressante. L'appellation frère musulman est liée et immédiatement corrélée à la présence britannique qui apparaît hégémonique en Égypte. Et c'est cette présence hégémonique qui amène ou qui entraîne ou qui engendre ce désir de retour à une religion qui est une réaction anti-moderne en l'occurrence. Il s'agit de, à la fois de la modernité étant associée à l'Occident, il s'agit de réagir doublement, à la fois contre la présence occidentale, la présence britannique en l'occurrence, et contre la modernité apportée par ces colons britanniques. Modernité dans l'esprit de Hassan al-Banna et de ses fidèles, correspondant à l'éloignement des sources les plus sacrées de la religion musulmane. Le fait de signifier ce tiraillement des sociétés musulmanes subissant le joug colonial. L'autre chose à laquelle on ne prête peut-être pas suffisamment attention, c'est le texte qui a été traduit en langue française de Ali Abdelraziq al-Azhari, cette figure importante de l'institution d'Al-Azhar, qui est né en 1888 et qui est décédé en 1966, et qui a écrit cet ouvrage, L'Islam ou les fondements du pouvoir, où il remet complètement en question le caractère sacré, sacralisé de l'institution califale.
Qui n'a jamais été canonisé, et d'ailleurs, lui-même en parle, mais aussi c'est le bon sens, si j'ose dire, historique, c'est qu'à un moment donné, il y avait trois califats, ou un calife et des anti-califes, puisqu'il y avait concomitamment le califat abbasside, le califat fatimide et le califat omeyyade d'Occident, et chacun des califes ne reconnaissait pas la légitimité des deux autres.
D'ailleurs, par l'ironie de l'histoire, comme dirait Max Weber, ce sont les conséquences inattendues d'un certain nombre de discours ou de pratiques. Il faut rappeler que l'institution d'Al-Azhar a été fondée par des fatimides.
Bien sûr.
Et ce sont les sunnites qui se sont ensuite accaparés cette institution. Mais même quelqu'un comme Abdelraziq, qui était pourtant une figure religieuse, théologique, son propos a été très mal reçu, très mal perçu. Alors la date de cet ouvrage, c'est 1925, c'est une année après l'abolition du califat. Mais on oublie de dire que était déjà en gestation l'idée de cet ouvrage. Et je rappelle à cet égard, le travail excellent qui a été réalisé par Abdou Filali Ansari dans un ouvrage intitulé « Réformer l'islam », point d'interrogation, où il rappelle...
Aux éditions de la Découverte.
Absolument, puis ensuite aux éditions Fennec, au Maroc, il a été... enfin, l'ouvrage de Filali Ansari, dans lequel il parle de Ali Abdelraziq, il lui rend justice, parce qu'on ne rend pas suffisamment justice à Ali Abdelraziq, certains estimant qu'il était occidentalisé, voyant le fait qu'il l'ait publié en 1925, une forme d'opportunisme, alors même, comme le rappelle justement le penseur marocain, que cet ouvrage était déjà en gestation bien avant l'abolition du califat en 1924.
Maintenant, ayant vu d'une manière très très brève, parce que le califat mérite sur le plan historique, une émission ad hoc, l'utopie qui consiste à vouloir imposer, alors pour les mouvements violents, extrémistes et qui sacralisent la violence comme la monstruosité idéologique et religieuse dénommée Daesh, qui esthétise la violence et théâtralise la barbarie et qui parle de ce pseudo-califat, et vous en connaissez, vous en avez parlé, vos conférences parlent de ce cas précis. En revanche, les autres mouvements islamistes légalistes, on peut même les passer en revue, les frères musulmans en Égypte, le Ennahda en Tunisie, le PJD, le Parti de la Justice et du Développement au Maroc, même l'AKP en Turquie, eux ne sont pas dans une logique d'instaurer le califat.
Absolument, et je dois dire, sidéré quand j'entends certains ou certaines en France parler d'une volonté de califat mondial de la part des islamistes, supposés ou réels, hein, supposés qu'ils le soient vraiment, ces islamistes désignés. Mon raisonnement est le suivant, est relativement simple. J'ai, vous l'avez rappelé, vous avez eu la gentillesse de le rappeler, beaucoup travaillé sur le PJD marocain. J'ai écrit un certain nombre d'articles à ce sujet. Si le califat n'est plus d'actualité en contexte majoritairement musulman, dans des sociétés conservatrices, alors, a fortiori, à plus forte raison, en France, qui est un pays laïque, jusqu'à preuve du contraire, cette perspective m'apparaît frappée au coin ou du sceau de l'impossibilité. Et pour asseoir cette idée ou cette supposée volonté califale de la part de certains, encore faudrait-il avoir des éléments empiriques. En fait, on oublie souvent de le dire également dans les interactions ou parfois dans certains médias, les islamistes sont des acteurs pragmatiques pour ceux qui participent au jeu politique. On le voit d'ailleurs ces derniers temps avec la libération de la Syrie des mains de Assad. Je ne dis pas que l'islamisme est a priori une bonne voie. Je dis la chose suivante. Ce n'est ni une mauvaise voie, ni une bonne voie. Il faut l'observer, décortiquer les réalités de ce mouvement. Les réalités de ce mouvement nous amènent à penser, à partir de certains cas pratiques, je pense au Maroc, à la Tunisie, à l'Algérie, d'autres contextes, que ces acteurs sont avant tout des politiques, davantage que des religieux. Bien évidemment, il y a une dimension religieuse, une dimension intégrale ou intégraliste, mais en fonction des rapports de force, en fonction des contraintes qui s'exercent sur eux, ils abandonnent, peu ou prou, un certain nombre d'éléments qui participaient d'une utopie, d'une certaine utopie. Le califat en faisait partie.
Oui.
C'était une utopie, effectivement, caressée par ces mouvements dans les années 70-80. Et dès lors qu'ils sont entrés en politique, qu'ils ont été reconnus comme acteurs politiques ou acteurs du champ politique national au Maroc, par exemple, ils ont abandonné la perspective califale. Je donnerai qu'un seul exemple. Travaillant sur Ben Kiren, qui est revenu en force ces derniers mois, à la tête du PJD au Maroc, Abdelilah Ben Kiren, qui a par ailleurs été Premier ministre entre 2011 et 2017, il a écrit un ouvrage paru en 90, fin des années 90, début 2000, où il renonce clairement, il l'écrit, le califat est une utopie tout à fait légitime, c'est un horizon désirable, mais aujourd'hui, c'est sa phrase, il vaut mieux un mouvement islamiste bien guidé qu'un califat bien guidé. En d'autres mots, il faisait là une distinction entre le politiquement possible et le moralement souhaitable. Ça, c'est le premier exemple que je donnerai. Peut-être un dernier, avant à nouveau de vous céder la parole.
Non, je vous en prie.
Je m'étais entretenu il y a quelques années avec Kamel Helbaoui, qui est à Londres, qui a longtemps été le porte-parole des frères musulmans en Occident. Dans cet entretien, il me confiait que le califat, il fallait l'entendre de manière rationnelle, c'est-à-dire une union, une coopération des États majoritairement musulmans. Et il disait, dans cet entretien écrit, qu'il trouvait qu'il y avait un sens à ce qu'il y ait cette coopération inter-islamique, parce que parfois, il y avait moins de distance entre deux pays musulmans qu'entre deux États américains. Hein, c'était l'exemple qu'il prenait dans cet entretien. Et on voit à l'œuvre, soit l'abandon pur et simple de cette utopie, un recentrage sur l'idéologie. L'idéologie islamiste, en tant qu'intégralisme, n'a pas disparu. En revanche, on peut considérer que le califat est un horizon tel, pour filer la métaphore mathématique, tel une asymptote, oui, qui ne touche jamais la droite.
Oui, vous avez cité deux exemples, mais si vous permettez, Hawa Seniger, je vous en rajoute un troisième, pas tant celui-là. C'est le cas de Hamadi Djebali en Nahda, lorsqu'il y a eu la chute du président déchu, Zine El Abidine Ben Ali, suite à ce qu'on appelait désormais et depuis lors le printemps arabe, ou les printemps arabes, lui, il s'est exulté, s'extasié de bonheur en disant c'est la marche vers le califat et qu'on va instaurer avec cette idée d'exporter en quelque sorte la révolution du jasmin. Et très vite, oui, il s'était rendu compte que c'était en gros une impéritie d'analyse et une ineptie, et lui-même et d'autres acteurs et protagonistes du mouvement Nahda se sont recroquevillés, si je puis dire, ou rétractés uniquement sur la scène tunisienne, sans parler de califat, en disant qu'il y avait une méprise et qu'ils allaient jouer le jeu démocratique, si je puis dire, en tout cas, si c'était le cas, sur la scène tunisienne.
Tout à fait, je vous remercie, puisque vous me donnez l'occasion de citer cet article paru dans la revue Horizon Studies, aux éditions Brill, dans laquelle j'ai signé un papier sur le califat. En effet, vous rappelez un épisode qui est très intéressant et qui montre que les acteurs qui accompagnaient Djebel Ali, qui parlaient, je crois d'ailleurs, de sixième califat à ce moment-là, oui, dans cette euphorie printanière, hein, si je puis dire, et qui a été rattrapé par la patrouille, si j'osais cette expression, parce que les islamistes sont dans des contextes nationaux. Je donne un exemple très actuel, puisqu'il a défrayé la chronique et il est à l'origine d'un conflit ou de tension entre l'Algérie et le Maroc. Les islamistes du PJD, donc ce parti marocain, n'acceptera jamais qu'on remette en cause la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Et donc, il peut très bien y avoir d'autres partis islamistes qui contesteraient la marocanité du Sahara occidental, et pour autant, les islamistes, attachés à l'intégrité de leur territoire, refuseront que cette souveraineté soit bafouée. Donc on voit que, finalement, selon les contextes, les acteurs agissent et réagissent en nationaux, hein, si je puis dire. Donc cette idée d'une unité islamique, d'un califat, n'a pas beaucoup de sens, sinon dans la rhétorique. Il ne s'agit pas d'écarter d'un revers de main la réalité de cette rhétorique qui consiste à dire « nous sommes tous frères, nous avons une religion commune et nous pouvons avancer à partir ou sur la base de cette religion commune ». On a beaucoup plus à faire à des islamo-nationalismes qu'à des islamismes à perspective transnationale.
Sur France Culture, dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons du califat, non pas d'un point de vue purement historique et cette charge qu'exerçait le calife. Simplement, nous en parlons avec Hawass Seniger, le politiste, et nous parlons du califat comme une utopie, en tout cas, a priori, avec le pragmatisme qui est un peu la manière d'agir et d'être des activistes politiques, adaptent leur discours. Et pour cette dernière partie, Hawass Seniger, de l'émission, si vous voulez bien, je reviens encore à l'exemple du Tunisien Hammadi Djebali, un activiste de Nahda, même de premier plan, qui veut reclarifier sa position en disant qu'il tient à réaffirmer et solennellement, donc il insiste sur le fait qu'il est là pour garantir l'alternance pacifique au pouvoir et que les principes qui le guident et auxquels il s'est engagé lui-même et ses acolytes, c'est d'ancrer de façon irréversible les principes de la révolution et des choses de cet ordre pour une société civile, démocratique et plurielle. Bon, on pourra toujours, fin de citation en gros, on pourra toujours dire que c'est le double discours, c'est l'hypocrisie des islamistes, etc. Mais en tout cas, ils n'osent plus parler du sixième califat.
Fondamentalement, les islamistes n'évoluent que sous le poids de la contrainte. Et cette contrainte est multiforme. Ce peut être la contrainte exercée par une constitution, ce peut être la contrainte d'un pouvoir, d'un État, de garantie juridique, d'indépendance des pouvoirs, ce peut être la contrainte de la société civile, et les acteurs islamistes qui sont en transaction avec une pluralité d'acteurs ne peuvent pas jamais faire ce qu'ils veulent, surtout s'ils prétendent s'insérer dans le jeu politique officiel. Et c'est à ce moment-là qu'ils évoluent et qu'ils peuvent faire des concessions par rapport à une idéologie qui, à bien des égards, est au moins originellement totaliste ou totalisante.
Oui, alors, sont-ils toujours, au pluriel, peut-être de tous ces mouvements, ces réseaux, parce qu'il y a une approche réticulaire de l'islamisme, je le dis sous votre contrôle, mais sont-ils dans une logique d'appliquer ce qu'ils appellent la loi de Dieu? Et si ça devait être le cas, comment? Parce que tous, a priori, maintenant, en dehors du cas extrême et abominable de l'Afghanistan, et encore dans une logique qu'on ne peut plus obscurantiste et criminelle à l'encontre des femmes, auxquelles on nie même leur dignité, sont-ils dans une logique de vouloir appliquer la loi de Dieu, qui sont seuls, a priori, à avoir scruté, connu et pénétré afin de l'imposer à leurs semblables?
Si l'on s'appuie sur des cas existants, et vous avez rappelé l'Afghanistan et c'est un très bon exemple, on a affaire à une logique maximaliste. L'islamisme peut être maximaliste ou minimaliste. Il est maximalisme quand il n'a aucun frein, aucun contre-pouvoir, et il peut l'être. Il y a une tendance absolutiste dans l'islamisme, et cela, je ne le nie pas. Mais dans le cas d'autres mouvements qui sont en interaction, et je le disais il y a quelques instants, avec d'autres acteurs du champ politique, en lien avec des acteurs internationaux, la logique est plutôt minimaliste. Ça veut dire concrètement faire en sorte de préserver certains domaines, je pense notamment au code du statut personnel, et on l'a vu dans des débats récents au Maroc, l'idée que l'on ne peut pas toucher à certains textes puisque ce seraient des textes divins et qu'on ne peut pas remettre en cause, par exemple, l'égalité de traitement dans l'héritage entre un homme et une femme. Et donc, il y a encore des aspects qui échappent à la sécularisation, mais pour ce qui est du reste, les islamistes échouent. Je donne de nouveau un exemple, le secteur bancaire. Les islamistes du PJD, quand ils sont arrivés au pouvoir en 2011-2012, qu'ils ont pris progressivement leur fonction, ce qu'ils ont voulu faire, ce n'est pas abolir le système bancaire classique, avec les intérêts, etc. C'est d'essayer de proposer des services bancaires ou ouvrir des guichets pour une finance dite islamique. Autrement dit, permettre à des musulmans attachés à une certaine interprétation de l'islam de pouvoir contracter des prêts sans intérêt. Mais il n'a jamais pu être question de remettre en cause l'entièreté d'un système largement sécularisé. Et l'ironie de l'histoire, pour reprendre encore cette expression excellente de Max Weber, c'est qu'on se rend compte très vite, par ailleurs, que la finance islamique est encore plus néolibérale que le libéralisme ordinaire des banques qu'on appellerait classiques. Mmh.
Où ce sont les pauvres clients qui se font parfois avoir avec cette idée de finance islamique par rapport au système bancaire ordinaire ou classique ou en cours, ou pour certains, pour eux en tout cas, pour les islamistes dits occidentalisés. Mais j'ai une question pour vous, Hawass Seniger. Le cas libyen est très préoccupant puisque je ne sais pas comment on peut qualifier le régime en place, mais il y a cette, au-delà d'une lubie, il y a cette, ça j'assume le mot, une idiotie de la part du ministre de l'Intérieur de vouloir imposer une sorte de politique de police pour combattre le vice et promouvoir la vertu. Et les premières victimes de ce genre de police, ce sont les femmes. Et là, oui. Est-ce de l'islamisme exacerbé et maximaliste ou une vision archaïque, éculée, obscurantiste de la société?
Là, on est dans une reviviscence de ce que Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans, appelait la hizba, la police des mœurs. C'est de faire la chasse aux comportements dits ou supposés déviants. Et effectivement, ce sont souvent les femmes qui payent le prix fort de ce raidissement quant au rapport à la religion musulmane. Fondamentalement, dans des sociétés ou dans des pays où les institutions sont fragiles, il y a beaucoup plus de chances pour voir émerger ce type de comportement qui viennent finalement combler le déficit de projet émancipateur pour la société. Donc il y a un recroquevillement sur les référentiels, un référentiel identitaire ou identitariste. Finalement, l'identitarisme est ce qu'il reste quand il n'y a plus rien. Et souvent, ces mouvements progressent et prospèrent quand il n'y a plus d'alternative politique, quand les acteurs, en l'occurrence, ne s'estiment plus contraints de proposer une véritable alternative socio-économique. Dans d'autres situations où les institutions sont à peu près stables, stabilisées, même s'il existe encore de l'autoritarisme, les islamistes sont beaucoup plus rétifs à adopter ce point de vue. J'ajouterai une autre variable qui me paraît essentielle, que l'on a bien présent à l'esprit quand on lit Jürgen Habermas. Il y a ce qu'on appellerait la différence entre la sécularisation et la laïcité. La sécularisation, c'est un processus objectif qui échappe à la volonté des acteurs. En d'autres mots, les acteurs pratiquent et font de la sécularisation sans même le savoir. Un peu comme M. Jourdain pratiquait la prose sans le savoir. On a le même phénomène. Plus la société est diverse, plus il y a une individualisation du croire, plus la société est ouverte sur le monde et plus les islamistes sont dans la contrainte d'accepter cette diversité et de ce fait d'être dans l'impossibilité d'appliquer un seul et même type de contrainte à l'ensemble des sociétaires. Et la sécularisation vient aussi par le bas. Et ensuite, les gouvernants décident à un moment ou à un autre de convertir cette sécularisation, de sanctionner socialement cette sécularisation par la laïcité. Donc vous voyez, il y a des paramètres qui sont multiples, il y a des paramètres d'ordre international et des paramètres d'ordre national. Et en fonction des sociétés, vous aurez le type d'islamisme que vous décrivez pour la Libye, comme d'autres types d'islamisme, comme ceux présents au Maroc ou ailleurs dans des sociétés où les institutions sont à peu près stables.
Hawass Seniger, nous approchons comme ça du terme de l'émission, mais je voudrais peut-être, pour comprendre davantage vos propos, m'assurer du fait que parmi les islamistes dits légalistes, le niveau stato-national, on est dans l'État-nation, prime pour eux la vision globale si ceci doit être en contradiction avec les intérêts vitaux de leur État-nation. Et, oui. Et là, la supposée ou voulue unité de la Oumma, considérée comme une sorte d'identité supranationale, n'a plus de mise. Et cela relève à la fois d'une loyauté uniquement nationale ou une adaptation, ou c'est un malaise dans leur propre discours.
Il y a plusieurs choses. La loyauté, incontestablement, dans le cas marocain, c'est très prégnant. Et d'ailleurs, la marche verte de 75 a été acceptée, célébrée par l'ensemble des forces politiques, à ma connaissance. Et les islamistes n'ont absolument pas dérogé à la marche verte organisée par Hassan II en 75.
On ne parlait pas trop à ce moment-là, j'allais dire, de mouvements islamistes en
75. Oui, même si le premier mouvement islamiste constitué, c'est la jeunesse islamique, Chabib al-Islami en 69. Donc on a déjà un mouvement avec un volet clandestin, un volet officiel, mais ça nous emmènerait trop loin et ce sera avec plaisir d'en discuter à d'autres occasions. Donc il y a une loyauté stato-nationale. Il y a aussi l'impossibilité, parce qu'en fonction des contraintes qui s'exercent sur vous, je donne l'exemple de ce qui se passe de tragique à Gaza depuis octobre 2023. Bien sûr que les islamistes, et pas que les islamistes d'ailleurs, hein, en contexte majoritairement musulman dans le monde arabe, sont dans une forme de solidarité, considèrent le Hamas comme un mouvement de résistance. Tout à fait légitime de faire ce qu'il fait. C'est cautionné et c'est célébré par le PJD au Maroc, hein, pour le parti qui m'intéresse. Donc il y a une forme de communauté de conviction, aussi une communauté politique. Mais ça n'excède pas la rhétorique. C'est-à-dire, au-delà des mots, ça ne se traduit pas concrètement. Le Maroc n'est pas engagé, n'est pas en guerre contre Israël. Donc on voit bien qu'il y a cette fibre oumique, on pourrait dire au nom d'une certaine conception de la Oumma qui continue d'irriguer parfois le comportement des islamistes en contexte majoritairement musulman, mais dans d'autres contextes, par exemple où l'islamisme est minoritaire et légaliste, les élans de solidarité ne se manifestent pas de la même manière. L'exemple français ou l'exemple européen, vous trouverez rarement, il s'en trouvera toujours néanmoins, des personnes appartenant à ce courant qui cautionneront ou qui ont cautionné les attaques du 7 octobre, les attaques terroristes du 7 octobre, perpétrées notamment par le Hamas. Donc on voit bien que ce sont des politiques. Si on a bien conscience que ce sont des politiques avec un conservatisme religieux incontestable, nous saisissons la raison pour laquelle ils s'adaptent au contexte, ils s'adaptent aux contraintes, et dire qu'ils sont légalistes ne signifie absolument pas que nous sous-estimons, en tant qu'observateurs, le poids d'une dimension religieuse qui, parfois, peut être de nature autoritaire.
Oui. Et alors, nous pourrions dire, puisque nous arrivons cette fois-ci vraiment à la fin de l'émission, que le califat, pour ces mouvements islamistes que vous avez qualifiés de légalistes, n'est plus à l'ordre du jour, et quand bien même ils voudraient l'instaurer, ils ne pourraient pas.
Celui qui m'a le plus éclairé pour approfondir la question islamiste autour du thème du califat, c'est Paul Ricoeur. Alors Paul Ricoeur ne parle évidemment pas du califat, ne parle pas d'islamisme dans un article qu'il a écrit dans les années 80 où il distingue très bien idéologie et utopie. L'idéologie est beaucoup plus adaptative que l'utopie. L'utopie, c'est la logique, comme il le dit lui-même, du tout au rien. Une logique folle du tout au rien. On n'est plus vraiment dans ces circonstances, pour autant qu'on s'intéresse au mouvement légaliste. Je mets de côté tous les mouvements radicaux, Hizb ut-Tahrir, Daesh, qui est un mouvement en perte de vitesse, mais qui continue peut-être de caresser ce désir. Mais pour ce qui est des mouvements islamistes insérés dans le jeu politique officiel, je peux dire, sans courir le risque d'être détrompé, qu'ils ont renoncé au califat en tant que réalité tangible, ou horizon tangible.
Merci, merci infiniment. Merci Hawass Seniger pour vos propos et pour cette clarification. Chers amis auditeurs, c'était l'émission Questions d'Islam, que vous retrouverez, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture, et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Jean-Louis Deloncle. Et la réalisation est assurée par l'ami François Connac.